rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Ta promesse est ta parole. Ta promesse est la vie pour ceux qui te cherchent. Ta promesse, Seigneur, c'est le bonheur éternel pour les tiens. Merci pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir parler de ta parole ce matin. Je te prie, Seigneur, de la bénir sur mes lèvres et de bénir, Seigneur, ton assemblée. Permets, Seigneur, que cette parole touche quelqu'un, qu'elle édifie quelqu'un, que cette parole, Seigneur, sauve quelqu'un ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Je lis pour nous tous. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc dis-elle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, je vainquis et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux Églises. Amen. Rien que la lecture nous dit quelque chose. Bien-aimé, le Seigneur connaît nos œuvres. Il connaît tes œuvres. Il sait ce que tu fais. Rien n'est caché devant lui. Devant lui, tout est à découvert. Et les chrétiens de cette église de Laodicée, cette église a été implantée par un disciple de Paul. Dans cette église, les gens étaient tièdes. Ils étaient tièdes. Et c'est ce que le Seigneur regrette. Le thème de mon message ce matin, c'est non à la tiédeur. Non à la tiédeur. Dans ce passage, il y a trois points que nous pouvons souligner. Premièrement, Dieu décrit l'état des fidèles de cette église. Deuxièmement, il les exhorte à la foi, à la sanctification et à une bonne vision spirituelle. Et troisièmement, Dieu leur montre ce qu'il leur réserve. Revenons à la première chose, premier point. Dieu décrit l'état des fidèles de cette église. Mais quel était leur état? Quel était leur état? Ils n'étaient ni froids, ni bouillants, c'est-à-dire ni chauds. Aujourd'hui, parmi les peuples de Dieu, on retrouve des fidèles comme ceux de Laodicée. Ni froid, ni bouillant. Mais dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'églises, on trouve trois types de chrétiens. Le froid, représenté par l'homme animal. Il y a des gens qui sont froids, même les autres sont glacés. Ils viennent à l'église, mais ils sont glacés. Les pasteurs parlent, mais ils ne sont même pas là. On se demande ce qu'ils viennent faire à l'église. Ils sont glacés. Les choses de l'église, les choses de Dieu ne leur disent rien. Parfois dans l'église, ils font les caméramans, ils regardent partout. Mais tu cherches quoi? Vous savez, quand on est ici, on voit tout. Ils sont froids. Je disais trois types de chrétiens. Il y a le froid, il y a le tiède, qui représente l'homme animal, ou plutôt l'homme charnel. On vient à l'église, mais on est charnel. C'est la chair. Parfois, on s'étonne quand un enfant de Dieu parle à la cité. Waouh! Mais c'est quoi ça? C'est la pluie. Charnel! Quelquefois, ce n'est plus la chair, mais c'est l'os. L'os. Et puis, le troisième type, c'est le bouillant, ce qui représente l'homme spirituel, l'homme que Dieu cherche. Le Seigneur préfère qu'on soit nettement indifférent, c'est-à-dire froid, ou vraiment zélé. Mais ici, les fidèles de Laodicée, nous les voyons, ils sont tièdes. Tièdes, ils avaient l'âme partagée. Et vous savez, des gens qui sont tièdes, ils sont comme des caméléons. Ils prennent toutes les couleurs, partout où ils sont. Ils sont comme les chauves-souris, ni oiseaux, ni animaux. À l'église, on pense qu'ils sont chrétiens, mais dehors, ils sont comme les gens du monde. Le pasteur ne te voit pas, mais il y a quelqu'un qui te voit, c'est le Seigneur. Qu'est-ce qui peut rendre un chrétien tiède? Qu'est-ce qui peut apporter la tiédeur? Il y a les difficultés de la vie qui peuvent apporter la tiédeur. Mais pour un vrai chrétien, lorsqu'il y a des difficultés, on s'approche du Seigneur. Mais dans le cas de cette église, ce n'était pas la tiédeur. C'était les richesses. Ils étaient aisés. Et quelquefois, quand on est aisé, on pense que c'est tout. On a difficile à lire la Bible. On prie difficilement. Les réunions, n'en parlons pas, c'est la formalité. Et on est tiède. Il y a aussi les péchés qui rend tiède et qui conduit même à la froideur. Le péché, on est à la base. Il y a également la vision limitée de la vie chrétienne. C'est ça qui fait des chrétiens charnels. On ne voit que ce qui est terrestre. On ne voit qu'aujourd'hui. Moi. On ne voit pas demain. On ne sait pas regarder en arrière. Les autres étaient comme toi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils étaient ni froid, ni bouillant, mais tiède. La deuxième chose, c'est que ils étaient caractérisés par l'orgueil, la suffisance et l'ignorance des chrétiens de la Odyssée. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, quand quelquefois je vois dans le YouTube, je dis, oh, mais ça c'est quelle parole? Même les pasteurs, ils ne veulent pas étudier, mais ils débitent des sottises. Tout le monde veut devenir prédicateur. Tout le monde veut devenir pasteur. Et c'est vraiment l'appel. Caractérisé par l'orgueil, la suffisance et l'ignorance. Écoutez ce que la Bible nous dit. C'est le Seigneur qui parle. Parce que tu dis, tu te dis. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est grave. On croit qu'on est quelqu'un alors qu'on est zéro. On n'est rien. Beaucoup de fidèles dans nos églises sont comme les fidèles de Laodicée. Ils sont suffisants. Et ils pensent que la bénédiction de Dieu, c'est l'argent. Les voitures, les voyages, les missions et autres. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des païens qui sont riches, ils ne sont pas sauvés, ils sont riches, et s'ils ne se repentent pas, ils iront où c'est? En enfer! Alors si à ces gens-là qui sont riches, vous leur prêchez un évangile de prospérité, est-ce qu'ils croiront? Ils ont déjà tout. Notre vision ne doit pas être limitée aux choses de la terre. Notre vision doit être la vision du royaume de Dieu. On est des voyageurs. L'homme vient du jardin d'Éden. Et il est en voyage pour la patrie céleste. Pour Jérusalem céleste. Notre finalité, c'est Jérusalem céleste. On est en voyage. Bien-aimés dans le Seigneur, cela me conduit à notre second point. Le Seigneur exhorte ses fidèles de Laodicée à la foi, à la sanctification et a une vision, une bonne vision spirituelle. Une bonne vision spirituelle. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Il exhortait ses fidèles à la foi, à la sanctification, une vie sanctifiée et à une bonne vision spirituelle. Ce conseil s'avérait particulièrement approprié puisque Laodicée était célèbre. Célèbre. C'était une ville bancaire, textile et industrielle. Une ville textile, bien sûr, c'est industrielle, et médicale. Et surtout réputée par ses collègues, étant donné qu'il y avait une école de médecine à Laodicée. Donc, dans l'église de Laodicée, il y avait des banquiers, il y avait des médecins. C'était des grands hommes. Et les gens étaient bien habillés. N'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises? On est bien habillé, il n'y a pas de mal à cela. Il faut qu'on soit propre. Moi-même, je le suis. Le Seigneur les exhortait à la foi. Aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte-t-il pas aussi à la foi? Frères et sœurs, rien n'est plus que la foi pour un chrétien. Seul le Seigneur Jésus est plus que la foi. Dieu est plus que la foi. Le Saint-Esprit est plus que la foi. La parole est plus que la foi. Mais l'ensemble de tout cela produit la foi. C'est la parole de Dieu qui engendre la foi. Dans Romains 10, 17, la Bible dit, « Ainsi la foi vient de... » ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De Christ. Écoutez ce que Psaume 19, 10 à 11 nous dit dans la version Bible de Semeur. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que l'or. Elles sont plus précieuses que l'or, de l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel le plus doux coulant de ruche. Bien-aimés, les chrétiens de Laodicée pensaient qu'ils étaient riches, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent, alors que Dieu les voyait pauvres. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie richesse, c'est de connaître Dieu. D'avoir la foi. Et d'assurer son éternité. C'est ça la vraie richesse. Connais-tu Dieu? Quand on connaît Dieu, on le craint. Quand on connaît Dieu, on marche. Selon ses principes, selon ses règles, selon sa parole. La vraie richesse, c'est de connaître Dieu, d'avoir la foi en lui et d'assurer son éternité. Son éternité auprès de lui, bien sûr. Le Seigneur aussi les exhortait à la sanctification. Et aujourd'hui, Dieu nous exhorte aussi. Il exhorte les chrétiens de notre époque à la sanctification. Combien de chrétiens vivent dans les mélanges, dans les compromissions? Mais dimanche matin, on lève les mains, on chante, on danse. Mais la vie en dehors de l'église est sale et sordide. Ces chrétiens de l'Odyssée pensaient qu'ils étaient vêtus. Parce qu'ils avaient des industries textiles. Et ils avaient des vêtements, des habits. Mais pour Dieu, ils étaient nus. Même s'ils avaient des industries textiles. Ils étaient nus. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de ta nudité ne paraisse pas. Vous savez, les chrétiens de l'église de Laodicée vivaient dans une société industrialisée selon le contexte de l'époque. Ils pouvaient en être fiers. Dieu l'avait aussi remarqué. C'est pourquoi il en parle. Si Dieu pouvait parler de notre contexte aujourd'hui, il parlerait de la mondialisation. Et celle-ci s'est installée comme soubassement la technologie. La technologie qui facilite tout. Ça facilite l'accès, par exemple, à l'occultisme, à la pornographie. C'est pourquoi il ne faut pas laisser les appareils à la portée toujours des enfants. Les enfants peuvent être possédés à partir des portables. Lorsqu'ils voient tout, quand on était à Lomé, je pense qu'à cette époque, on faisait encore le master. Et le pasteur principal de l'église nous a demandé d'aller prier pour un blanc, un frère qui était avec la jeunesse en mission. C'était un Suisse. Mais il était parmi les frères et sœurs de la jeunesse en mission. Mais il faisait des dégâts terribles. Il suffisait qu'il regarde quelqu'un comme ça sur la moto et la personne se renverse. Il peut seulement fixer un verre ou une bouteille, la bouteille se casse ou le verre se casse. Il faisait des dégâts. Et finalement, il a confessé ça un jour au pasteur. Et le pasteur a dit, nous allons prier pour ce frère. Et on lui a dit, mais pourquoi cela est arrivé? Il a dit, c'est l'Internet. J'ai eu ça à l'Internet. J'ai appuyé sur un bouton et on m'a dit, tu es venu me chercher. Et c'est ainsi qu'il a été possédé. Et nous avons prié pour lui. On a fait une prière de délivrance. Il criait, il y avait des salives qui sortaient. Et le Seigneur a permis que cet homme soit délivré. Il y a ceux qui sont attachés à l'Internet, du matin, pas jusqu'au soir, mais jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit. Ça, c'est dangereux. Et vous les voyez envoyer des vidéos à tout moment. Est-ce qu'on t'a engagé pour ça? Non! Ce n'est pas normal. Ils avaient leur contexte, bien sûr, ses habits. Mais un bon chrétien ne peut pas être affecté par les contextes. Daniel a vécu dans un contexte hostile à Dieu. Mais il ne s'est pas conformé au milieu. Il ne s'est pas conformé à son contexte de l'époque. Il est resté fidèle à Dieu. Plaise à Dieu que nous ici, nous restions fidèles au Seigneur. Dans Ecclésiaste 9, verset 8, le sage dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Les vêtements blancs se réfèrent à une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée. En tant que chrétiens, nous devons chercher et rechercher la sanctification. Paul a dit à Timothée, fuis ces choses. Quand ces choses viennent, il faut fuir. Et enfin, le Seigneur les exhortait à une bonne vision spirituelle. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Beaucoup de chrétiens ressemblent à ceux de l'Odyssée. Ils pensent qu'ils ont une bonne vision des choses. Une bonne vision des choses. Mais le Seigneur trouve qu'ils sont aveugles. Par moments, quand on prie pour quelqu'un, il tombe et puis on fait la délivrance. Après, quand il revient au bon sens, il dit, mais pasteur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Maintenant, tu vois clair. Tu sais maintenant expliquer certaines choses. Dieu t'a permis de voir que ton état n'était pas normal. Frères et sœurs, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux afin d'avoir une bonne vision spirituelle. Dans Psaume 118, verset 18, c'est Psaume 119, verset 18. Le psalmiste disait, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. Nous avons besoin que le Seigneur ouvre nos yeux pour contempler beaucoup de choses. Vous savez, Balaam était un prophète de Dieu. Il n'était pas un mauvais prophète, un faux prophète, non. Si Balak avait envoyé les gens chercher Balaam, c'est parce que Balaam avait la réputation d'être un bon prophète. Lui-même, il a dit, c'est l'homme qui entend la voix de Dieu. Il était un bon prophète. Mais Balaam frappait son âne. Parce qu'il s'obstinait à répondre à l'appel de Balak. Mais lorsque le Seigneur lui ouvrit les yeux, il vit un ange devant lui avec une épée nue. C'est toujours mieux de dire, Seigneur, aide-moi, ouvre mes yeux pour que je voie cela, que je comprenne certaines choses. Vous savez que lors de la mort du roi Ozias, Esaïe qui était déjà prophète, il était déjà au service du Seigneur. Il a eu les yeux ouverts. Il a vu que le Seigneur était assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe couvraient tous les temples. Il a vu la sainteté de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. C'est important que nous puissions dire au Seigneur, « Seigneur, ouvre-moi mes yeux. » Il ne faut pas être suffisant, comme les chrétiens de l'Odyssée. Ils se croyaient riches alors qu'ils étaient pauvres. Ils se croyaient vêtus alors qu'ils étaient nus. Ils croyaient qu'ils voyaient clair alors que pour Dieu ils étaient aveugles. N'est-ce pas ton cas ce matin? Réfléchis à cela. Et cela me conduit à notre dernier point. Le Seigneur montre ce qu'il réserve aux fidèles de l'Odyssée à la fin des temps. Premièrement, ceux qui sont tièdes seront vomis de la bouche de Dieu. On peut venir à l'église, on peut faire ce qu'on peut faire, on peut faire semblant, mais Dieu te vomira. Dieu nous vomira si nous sommes tièdes. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Qu'il n'en soit pas ainsi, frère et sœur, pour toi et pour moi. Deuxièmement, ceux qui vaincront seront assis sur le trône de Dieu. C'est ça qu'il dit. En d'autres termes, ils partageront la gloire de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ici il parle de la porte du cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, quel privilège, et lui avec moi. Quel privilège. Lorsqu'un grand homme vient chez toi, on dit tel est venu chez lui. Il a la relation avec tel. Tu es respecté dans ton quartier. Mais si Dieu vient chez toi, l'univers verra que le Seigneur est entré en toi. Les anges et les démons verront que le Seigneur est dans ta vie. Et les démons vont avoir peur. Ils vont dire, il est sacré, il est occupé. Il appartient désormais au Seigneur. C'est un intouchable. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra. Cela veut dire, dans la vie, il y a un combat. Un combat de tous les jours. La chair nous attire. Le monde nous attire. Le diable aussi nous combat. Mais la victoire, c'est Dieu qui nous l'accorde. Si nous, nous marchons selon ses principes, selon sa parole, il nous accorde la victoire parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de vaincre le diable. C'est le Seigneur qui est avec nous, qui nous permet de vaincre le diable. Il y a un combat. Et dans ce combat, il y a quelqu'un qui nous soutient. C'est Jésus lui-même. La parole de Dieu nous soutient. Lorsque nous sommes faibles, la parole de Dieu nous réconforte. Cette parole nous relève. Dans ce combat, il ne faut pas faiblir. Il ne faut pas laisser la place au diable. Dans ce combat, il faut la persévérance. Et quand on persévère, la victoire est au bout de ce combat. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé, ceci constitue aussi une invitation pour ceux qui veulent ouvrir la porte de leur cœur au Seigneur. Si quelqu'un m'ouvre sa porte, n'y a-t-il pas quelqu'un ce matin qui aimerait ouvrir sa porte au Seigneur, la porte de son cœur au Seigneur, pour que le Seigneur y pénètre. Bien-aimé, pour terminer, dans Ésaïe, plutôt, Hébreux 4, verset 12, la Bible dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Quel type de chrétien es-tu? Es-tu froid, bouillant ou tiède? Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, la sanctification et la vision du royaume, voilà ce qui caractérise un vrai chrétien. Si, s'il est réservé ou tiède d'être vomi par Dieu, quel sera le sort de ceux qui sont froids? Seul le bouillant, et j'ai dit les bouillants, seul les zélés partageront la gloire du Seigneur. Amen. Plaise à Dieu que nous soyons bouillants, que nous soyons chauds, afin de partager cette gloire un jour. Amen. Nous allons prier. Frères et sœurs, oui, c'est vrai, nous prions pour que le Seigneur bénisse chacun de nous, que le Seigneur guérisse les malades, que le Seigneur ouvre les portes dans tel domaine ou tel autre domaine, mais la finalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La finalité, c'est de rencontrer Dieu, notre Créateur, un jour. C'est cela la finalité. N'oublions pas ces choses. Dieu peut te bénir. C'est une bonne chose. Il peut te donner ce que tu cherches. C'est une bonne chose. Mais ne limite pas le salut de Dieu à toutes ces choses. Le salut de Dieu, c'est plus que tout cela. C'est de rencontrer le Seigneur un jour. Dans son royaume. Mon frère, ma soeur, es-tu touché par ce message? Et voudrais-tu que nous puissions prier pour toi? Si oui, tu lèves ta main là où tu es. Là où tu es, tu lèves ta main. Merci pour les mains levées. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Alors que je me prêche à moi-même aussi. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les mains levées. Pouvez-vous vous lever là où vous êtes? Avant que nous puissions prier pour vous. Merci. J'aimerais bien vous voir là où vous êtes. Merci. Gloire à Jésus. Le Seigneur est bon. Nous avons nos yeux fermés. Il n'y a pas de spectacle. Prends la décision d'être bouillant. D'être zélé pour les choses de Dieu. De craindre l'Éternel. Car ici-bas, on est des passagers. La fin de toutes choses, c'est la présence de Dieu dans les lieux célestes. Nous allons prier. Frère Ernest, tu peux revenir à ton rôle.
Précieux Père Céleste, nous te bénissons et te rendons de multiples actions de grâce ce matin. Parce que ta parole est sortie pour nous appeler à prendre position. Ce n'est pas une parole qui vient nous laisser dubitatifs. Nous devons faire un choix. Et si nous l'avons déjà fait, que ce choix soit constant. Parce que toi, tu es venu pour que nous ayons la vie éternelle. C'est ça, oh Jésus-Christ. Tu es venu pour que nous ayons la vie éternelle. Merci pour ta parole. Car ce matin, la Odyssée est venue réveiller tout un chacun de nous pour que la bonne position soit prise. Alors Seigneur, seul nous ne pouvons pas faire quelque chose. C'est toi-même qui l'as dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que Seigneur, c'est encore toi qui nous donne les capacités, les moyens nécessaires pour pouvoir faire ce choix ce matin. Alors Saint-Esprit, viens nous en aide. Sincèrement, viens nous en aide. Nous sommes encore dans ce monde et nous voyons comment le monde est en train de vouloir même nous arracher sur le chemin de la foi. Alors, Seigneur, ce matin, parce que ta parole est sortie, prends-nous en charge pour qu'aucune foi ne défaille dans chacun de nous cela. Que notre foi soit ferme. Parce que bouillons, scellés, nous devons être. Ainsi, ce jour-là, tu ne pourras jamais nous vomir. Non. Nous serons là avec toi pour savourer l'éternité. Alors ce matin, cet évangile de salut qui est sorti puisse bénir le peuple. Oui, parce que tu as pointé l'essentiel et tu as fait la différence dans ta parole avec l'accessoire. Alors, le peuple se réjouit devant toi parce qu'il reçoit le salut en l'acclamant. Nous acclamons le salut que nous recevons ce matin. La joie du salut est dans nos cœurs. La joie du salut est dans nos cœurs. La joie du salut est dans nos cœurs. Alors, le monde ne pourra plus rien contre nous. Bénis ton serviteur. Alors que Seigneur, je suis là, j'en profite pour dire merci. Parce que Seigneur, tu l'as remis sur pied. Je suis là, je l'ai demandé, Seigneur. J'ai dit le jour où j'arrive, qu'il soit debout en train de prêcher. Et j'ai mon témoignage. Il est là. Seigneur, il va voyager. Alors laisse encore que ta grâce, le poursuive et le remplisse. Parce que tu l'aimes, tu le connais. Merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Bénis cette parole dans nos cœurs. Et bénis le peuple. Au nom de Jésus, je prie.
Amen. Vous pouvez reprendre vos places, frères et sœurs.